Aujourd'hui, nous vous proposons un épisode particulier. En effet, nous avons été invités à un festival de contes, à raconter des histoires d'ovnis pendant le repas. Jeff, que vous avez déjà entendu plusieurs fois dans ce podcast, la dernière fois c'était pour le hors-série d'été, a une nouvelle fois été sollicité. L'aspect conte étant familier pour lui. Nous avons décidé de continuer d'explorer la relation entre les légendes et histoires qui étaient racontées par les chroniqueurs, conteurs, avec les témoignages plus actuels liés aux observations d'OVNI. Nous avons tenté de faire une sorte de ping-pong entre ces différentes histoires et de voir ce qui les reliait, ce qui les différenciait, tout en restant dans un format de conte. Cet enregistrement est donc le tout premier enregistrement public du podcast Dossier OVNI. Et je peux vous dire maintenant que l'exercice n'est pas simple. Se retrouver face à un public en train de manger et de discuter, et c'est normal d'avoir envie de parler à son voisin quand on se retrouve à table, nous a rappelé l'expression qu'employaient les chanteurs comme Brassens qui parlaient toujours de faire leurs armes dans les cabarets. C'est pas facile. Mais en même temps, c'est une très bonne expérience qui se renouvellera peut-être. Pour un meilleur confort d'écoute, les bruits de la salle ont quand même été enlevés. Et pour le reste, on vous le livre brut, tel que c'est sorti ce samedi soir-là, pendant ce week-end pascal.
Chaque année, des centaines de personnes sont témoins de phénomènes aériens non identifiés. Ces observations les bouleversent.
Il est monté avec une vitesse.
Et vont jusqu'à changer leur regard sur notre place dans l'univers.
Ce n'était plus qu'un point dans le ciel.
L'histoire que vous allez écouter s'est réellement produite et a été consignée dans les rapports du GEPAN.
Quelle que soit sa nature, une chose est sûre, nous sommes face à un mythe vivant. Nous avons ici l'occasion de voir comment naît une légende et comment, au cours d'une période difficile et sombre de l'humanité, se crée l'histoire miraculeuse d'une tentative d'intervention, ou du moins de rapprochement, de puissances extraterrestres. Carl Gustav Jung.
Aujourd'hui, dans les dossiers OVNI,
en public au festival Conte et Raconte.
Bienvenue dans une soirée un petit peu étrange. Je vais commencer par dire écric et crac, et à d'un coup m'enchant l'histoire. Je vais commencer l'histoire pour vous parler de quelque chose que Bello Verai, que Bello ne l'aitio pas, qui était vrai, qu'il ne l'était peut-être pas, d'un pays étrange, l'Aquitania. Et vous savez, c'était un pays étrange. Pourquoi ? Parce qu'au Moyen-Âge, on a vu arriver toute une équipe d'artistes, de conteurs, de kuntaires, de racuntaires, qui à l'époque trouvaient des chansons, trouvaient des rimes, trouvaient de la musique. Et comment on les a appelés ces artistes ? Comme que Koshedi, je dis, ah, il y a quelqu'un qui connaît. Koshedi, trouve, celui qui trouve la musique, qui trouve la rime, qui trouve. Oui. Et pour parler d'histoire des troubadours, mais beaucoup moins choc l'histoire d'une type qui est ragi des Bourdeaux, Zaofré Rudel. Et Lou Zaofré, qui était un grand troubadour, qui avait du succès, gagnait sa vie tranquille, hein, avec sa musique, avec ses chansons, jusqu'au jour où, rendez-vous compte, tout le monde a dit qu'il fallait partir se battre de l'autre côté de la Grande Aigue, de la Méditerranée, vers une ville qui s'appelait Jérusalem. On n'a pas trop compris pourquoi, mais ce que Geoffrey Rudel a retenu au même moment, c'est que de l'autre côté, dans un pays qui s'appelait le Liban, il y avait, bel et ou bel, peut-être bien, la plus belle femme du monde. La plus belle femme du monde. Et coquille, bel et là peut-être. Et Geoffrey Rudel, de Blaye, le troubadour, s'est dit, mais si la plus belle femme du monde, elle existe, moi, en tant que troubadour, il faut que j'aille chanter cette plus belle femme du monde. Il faut que j'écrive mon tube, mon plus grand succès. Et c'est ce qu'il va faire, il va écrire sa chanson qui s'appelait « L'amour des loups », « L'amour de loin ». C'est-à-dire que rien que de réputation de beauté et d'intelligence de cette plus belle femme du monde, qui, si ça se trouve, n'existait pas, eh bien, Geoffrey a tout laissé pour partir à l'aventure. Et c'est ce qu'il a fait, il est parti à pied, à cheval, avec sa guitare sur le dos, parce que lui, les croisades, les batailles, tout ça, ça ne l'intéressait pas. Et puis, il est arrivé à un endroit qui s'appelait « Eigemurt ». Aigues mortes, et merde, parce qu'à partir de là, il y a de l'eau, quoi. Alors, comment faire ? Finir à pied à la nage ? Alors, il a éperdu lui-même. Et au bout d'un moment, Pauli chez Paga, il a pu se payer le voyage, le viaggio, à travers l'aigo de l'autre écouta, per le pays qui s'appelle en vol ou Liban. Le Liban, ça existait ou pas ça ? Je sais pas. Et enfin, Jaoufré est monté dans son bateau en direction du Liban. Là où l'histoire est belle, là où l'histoire est intéressante, c'est que la chanson du troubadour, l'amour de loin, était tellement belle qu'elle est devenue un succès, qu'elle a fait le tour de la Méditerranée plus vite que le temps que lui arrive par bateau. Et alors qu'il avait pris le bateau, Jaoufré, enfin en direction de sa belle princesse, eh ben, il n'a pas eu de bol. On ne sait pas ce qui s'est passé. On sait que dans le bateau, s'est déclarée une épidémie de peste, de choléra. Alors peut-être que c'était le coronavirus. Peut-être qu'il n'avait pas mis son masque. Peut-être qu'il n'avait pas son passeport à jour au niveau de ses vaccins. Mais toujours est-il que quand il est arrivé au port de Tripoli du Liban, dans le bateau, tout le monde era meito crebo. Tout le monde était à moitié mort, sauf ce jeune troubadour. Il ne voulait pas mourir, le gars, tant qu'il n'aurait pas vu de ses yeux vus si oui ou non la plus belle femme du monde existait. Eh bien, vous savez quoi ? Au Liban, à Tripoli, existait Mélissande de Tripoli, qui était une princesse libanaise qui s'intéressait à la musique, qui s'intéressait à l'art. Et quand elle a appris qu'il y avait une chanson chantée par un troubadour qui racontait à tout le monde qu'elle était la plus belle, bah ça lui a plu, la nana. Ça lui a plu de dire que c'était elle la plus belle du monde. Alors on lui a dit, mais c'est dans le bateau que se trouve le pauvre troubadour qui est pratiquement mort. Alors elle est partie à la grande course, elle est montée dans le bateau, et la dernière chose qui s'est passée, c'est que le troubadour qui était foutu, eh bien c'est en étant dans les bras de la princesse de Tripoli qu'il a pu lui lancer son dernier regard. Et évidemment, il est mort dans les bras de la femme qui était forcément pour lui la plus belle du monde, vu qu'il en était amoureux. Et voilà la légende de Jaoufré Rudel, le troubadour de Blaye et de Bordeaux, parti en croisade pour chanter la plus belle femme du monde. Alors vous savez, à cette époque-là, eh bien, qui était la chef en Aquitaine ? Une Ofenno, une Henno, Aliénor. Chez nous, en Aquitaine, les femmes décidaient et faisaient de la politique, les femmes faisaient de la musique, les fameuses troubadourites. Et c'est à peu près au même moment que Aliénor, elle en a eu marre de son mari, le roi de France. Alors vous savez quoi ? Elle lui a dit, bah, écoute, je ne supporte plus, j'en ai marre, tu me parles mal, tu te prends pour qui ? Alors tu sais quoi ? Je vais demander la dissolution du mariage. Alors évidemment, ça a eu du mal à rentrer dans le cerveau d'un Capétien. Hein. Mais elle a repris sa liberté, et quelques temps plus tard, elle a rencontré un gars qui lui plaisait, plus jeune qu'elle, ça mange pas de pain. Et elle s'est mariée avec, c'est ce gars-là qui est devenu roi d'Angleterre. Ce qui fait qu'Aliénor est devenue reine d'Angleterre, ce qui fait que le duché d'Aquitaine est devenu anglais, les amis. Et alors que, à cette époque-là, les troubadours chantaient, on a eu une incroyable histoire. Le prieur de l'abbaye de Vigeois en Limousin a dit qu'au moment où Aliénor s'était installée en Angleterre à Londres, eh bien, les gens de Londres ont eu très peur parce que une nuit dans le ciel de Londres, on a vu passer un bateau. Un bateau dans le ciel, mais qu'est-ce que c'était que ça ? Les gens étaient terrorisés. Les gens ne parlaient que de ça. Un phénomène lumineux ? Un bateau dans le ciel ? Du coup, les moines l'ont écrit. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui encore, je peux vous en parler.
Et excusez-moi, Jeff. J'aimerais bien rentrer un petit peu dans le conte, parce que moi aussi, j'ai des histoires à raconter à propos de bateaux dans l'air.
Qu'est-ce qui vient m'emmerder, lui ?
Alors, je te demande l'autorisation de rentrer dans le conte.
Bon, bah, hey, c'est bien pour lui faire plaisir. Je sens que ça va être chiant. Alors, ok, je vais te laisser rentrer dans le conte. Un, deux, trois, une moment.
Merci.
Venoki, piti, venoki. Allez, Kaibun, Kaiton, tour.
Alors, tu as été très bavard déjà. Alors, j'ai dit à Didier qu'on est à 8h15, on avait fini. Là, comme c'est parti, je pense qu'à 10h, on y est encore. Merci à tous d'être là. Et puis, bon appétit. Et puis surtout, entre chaque plat, ouvrez bien grand les oreilles parce que ce soir, les ovnis vont s'inviter à votre table. Et il se trouve que, avec mon frère, on a créé un podcast qui s'appelle Les Dossiers OVNI. Et chaque émission de ce podcast est divisée en deux parties. Une première partie dans laquelle on va faire un conte, puisque je vais chercher, c'est moi qui m'en occupe, je vais chercher des histoires et des témoignages d'OVNI, des gens qui ont observé des OVNI. Alors je les trouve où ces témoignages ? Sur le site du GEPAN, le groupe d'études et d'informations des phénomènes aérospatiaux, qui est mis en place et qui dépend du CNES. Dans ces histoires, bien sûr, on se dit qu'on est épargné par des mensonges, par des gens qui voudraient un petit peu truander, raconter des choses qui ne sont pas vraies, parce que faudrait quand même passer du temps à la gendarmerie ou passer du temps à remplir des dossiers sur Internet assez compliqués pour témoigner de quelque chose. Bon, il n'y a pas trop d'intérêt. Voilà. Et dans la deuxième partie du podcast, mon frère raconte, lui, il a l'esprit beaucoup plus scientifique que moi, raconte l'enquête qui a été menée, parce que le GEPAN, quand les cas sont intéressants d'observation, il diligente une enquête. Voilà. Alors aujourd'hui, je ne suis pas avec mon frère, je suis avec Jeff. Et Jeff s'intéresse à beaucoup de choses. Alors, c'est la quatrième fois qu'il intervient dans le podcast. Il s'intéresse en particulier à l'histoire, aux légendes. Et effectivement, en discutant ensemble, on s'est rendu compte que beaucoup de légendes pouvaient ressembler à des observations d'OVNI. Et tu parlais de bateaux dans le ciel. Eh bien, j'en ai un aussi, figure-toi. Mais moi, il ne se passe pas au XIIe siècle.
Vas-y, raconte.
Il se passe en 2016. Voilà. Nous sommes en 2016, à Vence, sur la Côte d'Azur. Et là, il y a deux personnes qui sont en vacances. Et ils sont sur une terrasse qui domine la mer Méditerranée. Et Monsieur T est un peu agité, parce que depuis quelque temps, il se passe un truc dans le ciel qu'il ne comprend pas. Il est avec sa femme, il regarde ça, il y a deux masses lumineuses qui sont dans le ciel, et ils ne comprennent pas ce que c'est. Alors la femme dit, mais ça ressemble quand même à un gros paquebot ou un gros bateau. Et lui dit, mais enfin, un bateau c'est sur l'eau, c'est pas dans le ciel. Là, ça semble suspendu dans le ciel, donc ça peut pas être ça. Alors monsieur T, alors on appelle souvent les témoins T, parce que dans les rapports du GEPAN, ils sont appelés T comme témoin.
En anglais, c'est Mr. T.
Mr. T, tout à fait. Oui, exactement. Et donc, Monsieur T est très excité par cette vision. Il a vraiment l'impression de voir quelque chose d'extraordinaire. Et donc, il court chercher son appareil photo. Il déclenche l'appareil photo, il prend quelques photos. Et là, les deux lumières disparaissent d'un seul coup. Donc, il reste comme ça. Et même sa femme se dit, là, il y a quand même quelque chose, c'est bizarre. Des choses qui disparaissent comme ça d'un seul coup. Peu de temps après, ils envoient leurs photos au GEPAN. Et là, il y a une étude qui est menée sur ces photos. Et on découvre que, effectivement, c'était des bateaux. Mais la nuit avait rendu la mer et le ciel de la même couleur. Et quand on regarde les photos, on a vraiment l'impression que les bateaux sont suspendus dans le ciel. Sauf qu'en fait, ils étaient posés sur la ligne d'horizon. Mais alors, comment ils ont fait pour disparaître, vous me direz? Eh bien, en fait, ils ont été leur lumière. Car la tradition en Méditerranée, quand on longe les côtes, c'est d'allumer les lumières pour saluer les habitants. Et quand on s'éloigne vers le large, on éteint les lumières. Donc c'était vraiment des bateaux. Les lumières étaient éteintes et les bateaux n'avaient pas disparu, c'est tout. Voilà. Donc je regarde ces bateaux qui s'éloignent dans la nuit, dans le silence et sur la mer. Et je rends la parole à Jeff pour qu'il nous raconte d'autres histoires.
Merci Plol au filou. Merci Philippe. Eh bien, effectivement, on va refaire un petit peu de bruit parce que dans cette Aquitaine qui a été attaquée par les Anglais, attaquée par les Français, comment faire pour prendre le contrôle d'un territoire? Tu imposes ta langue. Je vous parle en quelle langue aujourd'hui? On a compris. Et avec tout ça, ouais, en langue d'oil, des Chegur. Et avec tout ça, bien évidemment, il y avait des problèmes de religion. Certains voulaient être catholiques, d'autres n'étaient pas trop d'accord, se sentaient plutôt protestants. Donc rebelote dans les guerres en Aquitaine. Ça n'a pas arrêté, ça n'a fait que ça. Et c'est au même moment où on avait cette fois encore une guerre, somme toute, entre deux femmes. Jeanne d'Albret, la reine de Navarre, et de l'autre côté, Catherine de Médicis, reine de France. Faut voir qu'au milieu de tout ça, les hommes, là, les chefs de guerre, les chefs, c'était des guignols, c'était des pantins, hein. Les deux cerveaux de toute cette bagarre, c'est deux femmes. Et au milieu de tout ça, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Dans le ciel du village de Carsacaillac, en Périgord, en 1572, en pleine guerre de religion, les gens ont été épouvantés du bruit revenait du ciel. On entendait un bruit tellement effroyable de hurlements, de comme si des armées se battaient, d'In Luciao, dans le ciel, que les gens ont eu tellement la trouille qu'ils l'ont écrit et consigné. On a appelé ça, parce que bien sûr on disait « Oh, c'est des inventions des gens, c'est des légendes. On appelait ça en occitan du Limousin l'ossache volante ou par ici, en Gascogne, le cache volante. Quéquay ou nos cache volante. C'est toujours pareil. On vous parle sur une période orageuse d'un nuage qui remonte le vent en faisant des bruits de métal, de bruits de hurlements qui vous tombent dessus et qui vous emportent d'Ilnusiao. Eh, qu'on faille pas, hein, ça fout la trouille quand même. Alors on pourrait se dire, ouais, bon, tout ça c'est des histoires qui s'oublient. Eh bien vous savez, il y a 10 ans encore, on a concilié, dans le cadre d'une collecte de la mémoire occitane en Périgord, le témoignage de monsieur, je vais dire son nom, Fontaine, qui, alors qu'il rentrait du village, de chez lui, hein, de Savignac-les-Églises avec une bonbonne d'huile de noix, c'est là qu'on voit le Périgourdin, hein, tranquille, eh bien, en début de soirée, avec un début d'orage, il a vu un nuage remonter le sens du vent, le gars s'est dit, oh, là ça va pas, hein, et avec un bruit assez spécial, lui arrivé dessus. Monsieur Fontaine a témoigné qu'il était tellement mort de trouille qu'il s'est senti comme paralysé au moment où il est tombé à genoux, tout en tenant la bonbonne d'huile de noix quand même, si vous ne voulez pas la péter. Il a eu le réflexe de se signer, le signe de croix. Vous voyez, c'est un peu un truc à la Superman, à la Batman. Et résultat, avec le signe de croix, alors qu'il était paralysé, eh bien, le nuage monstrueux a fait demi-tour et est parti à toute vitesse dans le ciel, entraînant derrière lui, en laissant traîner, comme le signe d'une comète. Terrible! Incroyable! Mais qu'est-ce que c'était que ça?
Toc, toc, toc.
Ah, quoi encore?
Excuse-moi, je voudrais encore rentrer dans le conte.
Oh, qu'il est pénible.
Parce
vas-y, viens,
à dire là-dessus.
Allez, vas-y.
Donc, tu me dis que les ovnis font du bruit. Alors moi, ce que j'en vois, dans tout ce qu'on a fait en 3 ans de podcast, c'est que les ovnis sont plutôt silencieux. Et ça, ça porte un nom. Ça s'appelle la théorie d'Oz, comme le magicien d'Oz. En fait, certains chercheurs prétendent que quand on observe quelque chose qu'on ne comprend pas, eh bien, tous les sens sont mis au service de la compréhension de ces choses. Donc, on a l'impression que l'environnement se modifie, que le silence se fait, parce que, en fait, les bruits aux alentours ne permettent pas d'interpréter cette chose qui nous pose problème. Voilà, donc, c'est Oz, le phénomène Oz. Et, par contre, il y a des fois où les ovnis font beaucoup de bruit, et là, je vais vous raconter une histoire qui est une de mes préférées, puisqu'on se retrouve en 1985, du côté de Royan, à Saint-Sulpice-de-Royan, en Charente-Maritime. On est en plein hiver, il est 16h et il fait très froid, très très froid. Et l'agriculteur qui est sur son tracteur, eh ben, il se caille. Et il décide d'aller se réchauffer un peu. Donc il descend de son tracteur, il va dans sa voiture, il met le chauffage, il fait tourner le moteur, et il commence à se sentir mieux, quand d'un seul coup il entend un sifflement. Un sifflement qui au début est lointain. Mais petit à petit, ce sifflement augmente, augmente, il a l'impression qu'il y a quelque chose qui s'approche de sa voiture. Le sifflement devient très fort. Là, il commence à se boucher les oreilles et il ose un coup d'œil par-delà le pare-brise. Et là, il remarque qu'il y a un objet qui tombe au sol. Le sifflement s'arrête en même temps qu'il y a un gros bruit sourd qui envahit l'espace. Et il devine un objet qui rebondit au sol en tournoyant plusieurs fois et s'immobilise. Alors là, l'agriculteur, il dit lui-même qu'il était aplati au fond de sa voiture de trouille. Il ne bougeait plus. Et il est resté un bon moment comme ça, l'oreille tendue, en se demandant ce qui avait bien pu se passer. Tout ce que je vous dis, bien sûr, ce sont des histoires vraies, qui sont consignées dans les rapports du GEPAN, pour lesquels il y a des procès-verbaux de gendarmerie. Donc il reste là, un bon moment, et il commence à reprendre un peu ses esprits et se dit « Mais peut-être que c'est un avion qui est en train de s'écraser. Faut absolument que je vois ce que c'est, peut-être il y a des gens qui ont besoin d'aide. » Et il sort de sa voiture. Et là, qu'est-ce qu'il constate? Il constate qu'il y a un trou dans le sol. Il constate que l'objet a laissé une de tranchée et que l'objet s'est immobilisé plus loin et qu'il est tout fumant. Alors il hésite un peu, il dit « Qu'est-ce que je fais? Je vais le voir cet objet ou j'y vais pas ?» Et finalement, il décide de reprendre sa voiture et de rentrer chez lui pour appeler la gendarmerie. À cette époque-là, on n'a pas de téléphone portable. Il appelle donc les gendarmes. Alors, il faut imaginer, en plein après-midi, les gendarmes qui reçoivent un coup de téléphone. « Bonjour, je suis agriculteur. Il y a un objet qui est tombé du ciel devant moi dans un grand bruit et qui s'est écrasé, qui fume, et je ne sais pas quoi faire. » Je pense que le ton apeuré de la personne qui a appelé devait être suffisamment crédible pour que, rapidement, les gyrophares bleus se laissent deviner de l'autre côté de la plaine et notre agriculteur les a amenés jusqu'au champ. En s'avançant dans le champ, il constate, les gendarmes, que l'engin est là. Donc il a creusé un sillon d'environ 2,50 m de long, 1 m de large, et il est profond d'une cinquantaine de centimètres, et l'objet est 8 mètres plus loin. Ils s'approchent avec prudence parce qu'ils ne font pas beaucoup plus les malins que l'agriculteur, en fait. Hein. Ils ne savent pas trop ce qu'il y a, ce que c'est cet objet. Est-ce qu'il est radioactif? Est-ce qu'il peut être contaminant? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc, ils décident finalement de laisser refroidir, hein, dans un premier temps. Et après, ils vont appeler les gendarmes de la base aérienne de Rochefort qui sont à côté. Et les gendarmes de la base aérienne viennent récupérer l'objet. Mais on ne sait toujours pas ce que c'est que cet objet. Alors, il y a des photos qui existent, on les voit. Les deux gendarmes qui tiennent l'objet comme ça, à bout de bras, ils ne sont pas très rassurés, on le comprend. Personne ne sait ce que c'est que cet objet. Donc, à un moment donné, le GEPAN est prévenu. Et le responsable du GEPAN arrive, 3 jours plus tard, à Saint-Sulpice-de-Royan, pour voir l'objet. Là, le bruit s'est répandu, il y a des journalistes partout, donc il est obligé de faire un peu le ménage. Et il commence par demander aux militaires, voilà, est-ce que cet objet est à vous? Est-ce que c'est vous qui l'avez lancé? Est-ce que vous savez ce que c'est? Les militaires disent non. C'est pas à nous, on sait pas ce que c'est. Bon, alors, si ça vient pas de la Terre, ça vient de l'espace. Et l'objet est emporté au CNES à Toulouse, au Centre National d'Études Spatiales. Et là commence une très longue enquête que je vous invite à écouter si vous le souhaitez sur le podcast, mais qui va impliquer la NASA, qui va impliquer tout un tas de gens, pour que, à la fin du fin, on trouve la provenance de cet objet. Il s'agissait d'un obus de la Seconde Guerre mondiale, qui avait été fabriqué par les nazis et qui était censé mettre un brouillard sur le champ de bataille. Et il avait été très peu utilisé, personne ne savait ce que c'était. Donc finalement, c'est une association d'armes anciennes qui a levé le lièvre, mais demeurait la question de comment cet objet s'est réveillé plus de 40 ans après la fin de la guerre. Et ça, il a fallu attendre encore longtemps pour que dans un article de presse que j'ai retrouvé, un paysan avoue. Il avait un trou dans son jardin. Il a voulu faire brûler des broussailles, il les a fait brûler les broussailles, et sous ses yeux, terrifiés, il y a un objet qui est sorti du feu en emportant avec lui la moitié des braises, etc., qui a fait une grande cloche et qui est retombé dans un pré plus loin, et il avait tellement peur d'avoir tué quelqu'un qu'il n'osait même pas en parler, et il avait décidé de se taire. Voilà, donc ça c'est pour ma première histoire d'OVNI qui fait peur, mais j'en ai une autre. Et là, pour celle-là, je vous amène en Belgique. Alors en Belgique, dans les années 90, il s'est passé un truc absolument unique. C'est qu'il y a eu des milliers d'observations en un an et demi à peu près. Il y avait des ovnis absolument partout. Et ce soir-là, du côté de Liège, il y a une dame. Et cette dame, elle est assise devant sa télévision. Elle n'arrive pas à entendre sa télé parce qu'il y a un bruit énorme dehors. Un bruit, un sifflement, encore une fois, énorme. Et elle a l'impression qu'il y a un avion qui est juste au-dessus de sa maison et qui va s'écraser. Donc elle sort de la maison et là, elle constate qu'il y a un appareil lumineux qui est au-dessus de sa maison. Et là, machinalement, elle se bouche les oreilles, elle ferme les yeux et elle s'attend à un crash. Elle pense vraiment qu'il y a un objet qui va s'écraser. Il est trop bas, c'est pas possible. Et là, elle voit l'objet qui pivote horizontalement sur lui-même, qui fait le tour d'un arbre qui est devant la maison et qui repart dans l'autre sens. Et quand l'objet passe au-dessus d'elle, elle voit une couronne lumineuse sous l'objet. Et elle ne sera pas la seule témoin, puisque tous les voisins ayant entendu le même bruit sont sortis et voient également l'objet s'éloigner. Voilà pour cette vague belge. Alors, cette vague belge, elle pose toujours problème. On a fait une émission là-dessus, vous pouvez l'écouter, c'était en décembre dernier. Et en fait, jamais, toutes les observations qui ont eu lieu en Belgique en un an n'ont jamais été expliquées. Il n'y a jamais eu d'explication tangible. Et il y a un général de l'armée de l'air qui a témoigné en disant, en 1990, l'armée de l'air belge a répété à plusieurs occasions qu'elle n'avait pas d'explication à ces observations. À cette époque, l'armée de l'air travaillait avec les autorités de l'aviation civile et avait près de 300 avions, incluant des hélicoptères, plusieurs stations de radar au sol, 500 pilotes, 100 contrôleurs, des milliers de techniciens, mais nous avons été incapables de trouver la réponse. Voilà pour ces objets qui font du bruit. Bon, maintenant... Vous connaissez tous le mot OVNI. Eh bien, il est en train de disparaître. Il est en train de disparaître comme a disparu la première appellation des OVNI qui était les MOC, les mystérieux objets célestes. Donc, les MOC sont devenus les OVNI, objets volants non identifiés. Et maintenant, la dernière appellation, c'est les PAN, phénomènes aérospatiaux non identifiés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans les années 50, on voyait des ovnis que les ufologues appellent « tôles et boulons ». C'est-à-dire des ovnis vraiment avec des boulons, il y en a même qui avaient des pots d'échappement, c'est pour vous dire. Maintenant, ce qui a tendance à se généraliser, c'est des observations de phénomènes lumineux, dont on ne sait pas s'il y a quelque chose de physique derrière. Donc, le mot phénomène va bien pour ça. Et sur ce, j'aurai la parole à Jeff pour qu'il nous parle de ces mystérieuses lumières.
Merci.
Bah, il est bien gentil, Philou, mais ces histoires d'extraterrestres et d'ovnis, moi, j'y crois pas du tout. Par contre, les bateaux dans le ciel, les petits démons, les petites sorcières, tout ça, moi, je pense que c'est vrai. Et vous savez, je vais vous en donner la preuve. Parce que en Aquitaine, au Moyen-Âge, on nous a planté des croix avec un mec qui avait été crucifié dessus. On nous a dit, c'est vrai, tout ça, il faut y croire. Le gars, il est mort, mais en fait, il n'est pas mort. Il est reparti au ciel. Il y en a d'autres qui ont dit, je suis pas d'accord. Ça fait beaucoup d'embrouilles, hein. Ça fait beaucoup de morts, tout ça. Alors qu'il faut savoir que chez les Aquitains, depuis la nuit des temps, il y avait une seule vraie croyance qui était restée. Pour les gens qui travaillent la terre, le gars qui travaille la terre, il a besoin de quoi ? Pour ses plantes et pour ses animaux ? Il a besoin d'eau ? D'aigo ! Et on remarquera que dans toutes les sociétés agro-pastorales, tu vas en Afrique, tu vas en Asie, tu vas chez les Amérindiens et tu vas chez les paysans d'Europe, s'il n'y a pas d'eau, t'es foutu. C'est pourquoi les seules vraies croyances qui remontent à très, très, très loin se trouvaient chez nous autour des sources. Eh ben t'es. Et partout où la nature te donnait de l'eau fraîche en quantité, les gens avaient tendance à remercier la nature. On mettait des bouts de chiffon, des pétassous dans les branches. On jetait quelques pièces dans la source pour remercier. Certaines dames savaient, connaissaient comment se soigner si tu respirais mal, si tu t'étais brûlé la peau, si tu n'étais pas bien, en allant trouver la bonne source. C'est pourquoi il n'était pas rare de trouver chez les Occitans, comme chez les copains bretons et ailleurs, à côté de ces bonnes sources, eh bien des pierres levées ou des pierres couchées. Que chez les copains bretons, on va appeler dolmen ou menhir, mais que chez nous, dans la seule vraie langue d'ici, on appelle peyre-levade, peyre-fiche, peyre-plate, et qu'on trouve généralement autour de ces bonafous. Et qu'est-ce qu'on disait régulièrement ? C'est que quand on allait près de ces sources, il n'était pas rare de voir apparaître des dames blanches, des dames blanches, des fantômes féminins qui venaient rôder autour de ces sources. Alors, des légendes, il y en a partout. Partout en Aquitaine, en Périgord, en Limousin, de ces histoires d'apparition féminine à côté des fontaines et des pierres levées et des pierres couchées. C'est toujours la même histoire. C'est une petite bergère qui gère son troupeau. Il y a un orage, il y a une catastrophe. Elle s'abrite sous les pierres et elle est protégée par la Dame Blanche. Moi, je pense qu'il ne faut pas se moquer de ça parce que, vous savez, la plus célèbre, parce qu'on en a des centaines et des centaines de témoignages hein, de ces petites bergères, la plus célèbre qu'on a retenue, on l'appelait Bernadette au Lagouillat. Elle était en Béarn et elle a toujours dit, il suffit d'aller vérifier, hein, parce qu'elle ne parlait pas un mot de français, elle parlait béarnais. Hein. Elle a toujours dit que ce qu'elle a vu, elle, à côté de la fontaine, à l'entrade d'Alcro, à l'entrée du trou de la grotte, elle a dit, hey, vit une dame blanche. Après, chacun ses croyances, vous voyez ce que je veux dire ? Eh bien, c'est pourquoi ces dames blanches ont toujours été là, et souvent, on voit bien que, pour des raisons politiques, les États s'en servaient. On a un très bon exemple. En pleine Première Guerre mondiale, on est fin 14, début 1915. On sait que du côté de la Belgique, les Anglais subissent une contre-attaque des Allemands. En fait, ils se sont pris une tôle, malheureusement. Eh bien, quelques jours plus tard, on a annoncé dans tous les journaux anglais qu'au moment où les soldats anglais étaient en train de craquer, dans le ciel sont apparus des fantômes blancs, des nuées blanches qui ont fait peur aux soldats allemands et qui les ont repoussés. On a appelé ça le phénomène des anges de Mons. Mons en Belgique. Hein. Tellement bien que c'est un auteur anglais qui s'appelait Arthur Macken, que je recommande à la lecture pour ceux qui s'intéressent, hein, qui a dit que lui, il avait écrit cette histoire 2-3 ans plus tôt, mais que c'était pour déconner, hein, que c'était une blague, vu les proportions que ça prenait. Et vous savez qu'au même moment, un peu partout sur le front 1915-1916, chez les Français, eh bien, quand des soldats apercevaient des fantômes dans le ciel, on disait « Ah, bah c'est Jeanne d'Arc !» ou alors c'est la Sainte Vierge. Vous voyez, il ne faut pas trop se moquer de ces dames blanches.
Bien. Alors, en fait, de dames blanches, j'ai quelque chose en magasin qui peut être assez intéressant.
Tu vas encore me casser mes trucs.
Oui. Oui. Durant la saison 3 de notre podcast, on a fait une émission avec un spécialiste des images. Et donc, on lui a demandé un petit peu de nous expliquer ce qu'il fallait comprendre des images et des vidéos d'ovnis qu'on pouvait voir sur Internet. Et cette personne s'occupe d'un logiciel d'analyse d'images qui s'appelle IPACO, qui est un logiciel très performant. Et donc, ils ont tout un dossier d'enquête. Et là, en le feuilletant, on a été surpris de voir des fantômes. Pas un fantôme, plusieurs fantômes. Mais il y a un fantôme qui a retenu notre attention. Alors, cette photo a été prise à Dharamsala par un photographe en 2021. Donc, c'est très récent. C'est une photo où on voit au premier plan une sorte de muraille ornée de lettres et de symboles colorés. On est dans un temple bouddhiste. À l'arrière-plan, sur la gauche, apparaît un temple, tandis que sur la droite du cadre, il y a un feuillage sombre d'un arbre. Et là, il y a un fantôme, une masse blanche avec la forme qu'on connaît d'un fantôme et qui flotte en l'air, qui semble flotter en l'air. Donc, cette photo a été analysée par nos spécialistes des images. Et en fait, il s'agit d'un effet d'optique qui est assez connu, qui prend le nom de pareidolie. Les pareidolies, c'est ce qui se passe quand on regarde des nuages et qu'on trouve qu'ils ressemblent à des éléphants, à des lapins, à des lébérous, à des ovnis, etc. Et donc, cette photo, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un reflet d'un panneau qui est hors cadre, qui est blanc, qu'un rayon de soleil a éclairé, et ça a fait une tache blanche sur la photo qui ressemble, comme deux gouttes d'eau, à un fantôme. Alors ça, c'est anecdotique et c'est les fantômes. Les fantômes, moi, je les approche pas trop. Par contre, vous avez peut-être certainement même entendu parler, puisque Jeff parlait des anges de Mons, des Foo Fighters. Alors, il ne s'agit pas du groupe de rock, qui est bien connu, mais pendant la Seconde Guerre mondiale, en plein pendant les batailles qui avaient lieu dans le ciel européen, les pilotes se sont mis à voir de plus en plus de boules lumineuses qui volaient soit seuls, soit en formation, et qui venaient s'immiscer dans les combats, et qui allaient parfois jusqu'à traverser les carlingues. À tel point que certains ont pu parler de plasma ou de foudre en boule. Mais ce qui est curieux, c'est que ça s'est arrêté dès la fin des hostilités. Donc aujourd'hui encore, on se demande ce que c'était que ces Foo Fighters qui étaient observés par tous les belligérants. Et je ne pouvais pas finir sans parler des lumières d'Esdalen. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez connu dans les milieux des ovnis. Esdalen, c'est une vallée en Norvège d'une quinzaine de kilomètres de long. Et depuis des dizaines et des dizaines d'années, elle est traversée par des lumières. Par des lumières en boule, par des lumières de couleur, blanches, de toutes sortes. Il y a un journaliste sur place qui témoigne et dit « Parfois, les lumières sont aussi grosses qu'une voiture et peuvent flotter en l'air pendant 2 heures. D'autres fois, elles traversent la vallée à grande vitesse avant de disparaître. » Eh bien là aussi, après quelques années, une explication se fait jour. Il se trouve que les deux côtés de la vallée ont des rochers d'un côté très riches en cuivre, de l'autre côté très riches en fer, et au milieu, une rivière très riche en soufre. Et tout ça, ça fait une batterie naturelle qui fonctionne très bien, puisque ça crée des plasmas électriques qui se déplacent tout le long de la vallée. Voilà. Donc, les phénomènes expliqués ou pas, ce qui nous intéresse, c'est la réaction des témoins surtout. Parce qu'ils se retrouvent face à un phénomène qu'ils ne comprennent pas. Et j'ai une pensée là, à ce moment-là pour M. Linfort, que tu connais bien, Jeff. M. Linfort a eu toute une carrière dans la haute fonction publique et il habite en Dordogne, dont il a été sous-préfet. Et après des années et des années passées dans la haute fonction publique, pendant le confinement, il a décidé de raconter une histoire qui lui était arrivée quand il était jeune homme, où il a observé dans sa cour de ferme une boule de lumière qui s'est rétrécie sur elle-même et a disparu. Il était avec un commandant de gendarmerie qui a fini au ministère de la Défense. Voilà, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que des années après, plus de 50 ans après, il se rappelle très bien de cette histoire, il en a fait un livre, et quand on l'a interrogé pour le podcast, il était encore très ému de ses observations. Alors, on le voit, maintenant, les ovnis ou les pans, comme on les appelle, sont pris au sérieux et ils sont étudiés. Mais on ne peut pas éluder le fait que le phénomène attire quand même certaines personnes qui sont pour le moins farfelues. et qu'on appelle en Dordogne les bendos. Et ces bendos, on avait envie d'en parler avec Jeff parce que, bon, déjà, ils nous font rigoler. Et puis, il y en a eu quelques-uns et il semblerait qu'une petite vallée en Dordogne les attire particulièrement. Alors, je te laisse présenter ton bendo et je présenterai le mien.
Alors, effectivement, cette histoire nous ramène il n'y a pas très longtemps, il y a 20-25 ans grand maximum, dans le nord de la Dordogne, du côté de, entre Brantôme et Bourdeille, pour ceux qui connaissent. Eh bien, on a vu apparaître toute une équipe que les gens du coin ont, avec, comme ils le disent encore aujourd'hui, en patois, ont baptisé les bindos, c'est-à-dire les dingues. On a vu, un beau jour, arriver dans le petit village de la Gonterie Boulounex, quelqu'un qui se présentait et qui se disait Raël. Est-ce que vous avez entendu parler de Raël ? Eh bien, Raël, nous, en Périgord, on en parle depuis des années, parce que on a beaucoup d'histoires à raconter sur lui. Et on a notamment un ami commun avec Philippe qui nous a raconté une histoire assez incroyable. Notre ami commun était le médecin du village de Bourdeille. Et voilà à peu près ce qu'il nous a raconté. Il dit, bon, nous, à Bourdeille, on ne voyait jamais grand monde, jusqu'au jour où on a vu débarquer Raël et toute son équipe de bindos. Et Raël se présentait gentiment comme le messie cosmoplanétaire qui allait venir annoncer le retour des ovnis ou plus exactement l'arrivée
des Elohim.
Oui, ou des Elohim. M'en voulez pas, hein, parce que ça a pas mal changé. Il faut savoir que dans le village, il avait une tante à lui qui lui tricotait ses écharpes de messie cosmoplanétaire. Et Raël regroupait toujours plus de monde autour de lui, intéressé par les ovnis. Il avait décrété deux choses à retenir. D'abord, il disait aux gens qui étaient dans son groupe, certains ont parlé de secte, hein, qu'il fallait refuser les médicaments. L'autre affaire, c'était qu'il avait décidé que toutes les femmes et les jeunes filles les plus jolies n'étaient que pour lui. C'est intéressant comme concept, hein. Et précisons quand même qu'il avait décidé que la moitié de la piscine du village de Bourdeille était un centre cosmique. Donc il venait se baigner tout nu avec ses quelques concubines préférées dans une partie de la piscine. Alors pourquoi pas l'autre, je ne sais pas, hein, mais dans cette partie de la piscine. Et autant il interdisait tous les médicaments ou les vaccins aux membres de son équipe, il faut savoir que Raël, pour ceux qui le connaissent, eh ben, c'est quelqu'un qui est hypochondriaque et qui est souvent malade. Et comme il est toujours très mal foutu, bah lui, il allait régulièrement voir le médecin à Bourdeille pour se faire prescrire médicaments. Donc, je trouvais ça intéressant de voir ce type de personnage venant en Périgord annoncer le retour des ovnis. Et ça a créé toute une communauté assez curieuse qui est venue s'intéresser aux ovnis en Périgord. Mais je laisse la parole à Philippe pour finir notre présentation.
Oui, bendo numéro 2. Donc, 25 km plus loin.
Voilà.
Un peu plus en aval du Val de Drône, hein, puisqu'il s'agit de la vallée de la Drône. Donc, un matin au mois d'août, alors qu'un orage a éclaté pendant la nuit, un passant qui va travailler remarque des vaches qui divaguent sur une route. Donc, tout le monde se connaît là-bas. Il prévient tout de suite l'agriculteur. Et ce dernier arrive rapidement et il trouve les vaches dans un état d'affolement auquel il n'est pas habitué. À ces vaches, ce troupeau est plutôt calme. Bon, il arrive malgré tout à les remettre dans leur enclos, c'est pas la première fois que des vaches s'en vont. Mais alors qu'il s'apprête à refermer la barrière, il remarque une masse sombre dans un coin. Il s'approche et il voit une vache morte à terre. Il appelle la gendarmerie parce qu'il arrive parfois que des vaches soient tuées par des gens qui prélèvent des choses. On a déjà vu ça dans une localité voisine quelques mois avant. Des sacs plastiques avaient été retrouvés sur place. Les barbelés d'enclos avaient été sectionnés et les entrecôtes avaient été prélevés ainsi que quatre jarrets. Mais dans le cas qui nous intéresse, le mode opératoire est curieux et va retenir l'attention. Cette fois-ci, l'animal n'a pas été égorgé, comme c'est habituellement le cas, et il semblerait que son cou ait été pris dans un étau très coupant. Les jarrets arrière ont été découpés, la queue détachée et un œil a été crevé. Mais ce qui marque surtout les enquêteurs, c'est la précision chirurgicale de la découpe et l'absence de traces de sang sur l'animal ou dans le pré. Il semblerait même, de mémoire, que la vache avait été vidée de son sang. Et il n'y a aucune trace, ni de pas, ni de véhicule sur le sol alors qu'il est détrempé. Des mutilations de ce type avaient été signalées en masse aux États-Unis. Et des interrogations concernant le mode opératoire, le dépeçage de cette vache, n'ont pas attiré les mouches puisqu'il n'y avait pas de sang, mais par contre, ont attiré des ufologues. Et parmi ces ufologues, il y avait un groupe nommé les Chevaliers de la Lumière. Un des responsables de ce groupe se présentait à l'époque comme le rédacteur d'un magazine, L'étrange et le mystérieux dans le monde et ailleurs. Leur maître à penser se nommait Jimmy Guilleux, un personnage fantasque, connu pour ses frasques et ses théories parfois délirantes. On le voyait souvent sur les plateaux de télé, chez De Chavannes, etc., où il était invité pour faire ce qu'on n'appelait pas encore le buzz. Et il avait publié un livre très intéressant à l'époque, mais qui situe le personnage. Le livre s'appelle, tenez-vous bien, « Révélation sur Brice Lalonde, Jimmy Carter, Henry Kissinger, Simone Veil et Raymond Barr. » Rien de moins. Donc on voit que le gars était occupé quand même. Hein. Donc on voyait à l'époque les Chevaliers de la Lumière, donc son groupe, qui furetaient partout avec les caméras en main et qui étaient accompagnés d'un groupe de jeunes très curieux et très contents qu'il se passe enfin une chose dans leur village. Et parmi ces jeunes qui suivaient les Chevaliers de la Lumière, il y avait mon frère et moi qui écoutions avidement toutes les histoires d'ovnis que ces gens-là racontaient.
Ah bravo.
Oui. Bon, on n'a pas été chevalier, on n'a pas été intronisé. Et voilà, et c'est sans doute comme ça qu'est née, en tout cas nous concernant, notre appétence pour toutes ces histoires d'ovnis, en tout cas.
Alors, pour finir notre petite présentation avec Philou, l'idée, ça serait quand même de venir un petit peu en défense de ce brave Raël, parce qu'il est quand même périgourdin d'adoption. Donc, sans aucun chauvinisme, aucun, on va quand même dire qu'il est peut-être pas un mauvais gars, forcément, s'il est périgourdin. Et j'attirais votre attention sur ces phénomènes sectaires. Je vous rappelle qu'il est facile de se moquer de Raël, mais je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous vivons dans un pays où une secte nous promet l'arrivée du grand ruissellement. Donc, méfions-nous de ces phénomènes sectaires et méfions-nous surtout de la secte du grand ruissellement. Pour finir, vous savez comment on dit ? Écric et crac, lukunt et Sakabats.
Merci beaucoup.